Alors, ce matin, on va terminer la série qu'on a commencée sur Jean 17, la prière de Jésus. Et on aborde donc, je vous ai dit qu'il y avait sept sujets de prière. J'y reviendrai tout à la fin. Mais on aborde le dernier passage et ça va se limiter à un verset, le verset 24. Jésus donc conclut tout ce qu'il a dit en disant: Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. J'ai dit que jusqu'à présent, Jésus a exprimé six sujets de prière. Et si vous regardez bien dans cette phrase, le dernier morceau de la prière de Jésus, Jésus change de langage. Il ne formule pas simplement un sujet de prière, mais on pourrait dire presque qu'il emploie le langage de l'exigence. Il ne dit pas je prie pour que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. Mais, Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. On va réfléchir à ce je veux de Jésus. Je veux. Quand on dit je veux, c'est vraiment quelque chose qui exprime, on pourrait dire, une exigence, quelque chose de fort. Et on ne peut pas dire je veux devant Dieu. Personne n'a jamais dit je veux à Dieu, ni Moïse, ni David. Vous pouvez parcourir les psaumes, vous ne verrez jamais quelqu'un qui ose dire à Dieu je veux, je veux. C'est plutôt à Dieu de nous dire je veux. C'est lui qui nous dit quelle est sa volonté. Parce qu'il est Dieu, il a le pouvoir de le faire. Martin Luther, le réformateur, avant qu'il ne découvre le salut que Dieu lui offrait gratuitement en Jésus, il était tourmenté par la question de la justice de Dieu. C'était un juriste, quelqu'un qui connaissait la loi et qui pratiquait la justice. Il ne pouvait pas comprendre comment un Dieu juste pouvait accueillir des hommes injustes, quelque chose qui allait contre le droit pour lui. Il était tellement obsédé par cette question qu'il a écrit: Qui suis-je pour lever les yeux ou les mains vers la majesté divine? Elle est entourée d'anges. À son signe, la terre tremble. Et vais-je, moi, un misérable petit pygmée, déclarer « Je veux ceci, je demande cela » Car je ne suis que poussière et cendre. Je suis rempli de péché et je m'adresse au Dieu vivant, éternel et véritable. Martin Luther avait bien conscience qu'il ne pouvait rien demander à Dieu, que la seule chose qu'il méritait, c'était d'être exclu de la présence de Dieu. Alors on va réfléchir à ce je veux de Jésus. Pourquoi est-ce que Jésus peut s'adresser d'une telle façon à Dieu? Il y a trois raisons à cela. D'abord, rappelons-nous qu'avant de dire je veux à Dieu, Jésus a dit non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Le je veux de Jésus s'inscrit dans une chronologie où d'abord il a dit à Dieu non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et quand Jésus a dit non pas ce que je veux, c'est à nous qu'il pensait. On va lire Matthieu 26, 36 à 42, qui nous rappelle le contexte de ce non pas ce que je veux que Jésus a prononcé. Matthieu 26. 36. Là-dessus, Jésus se rendit avec eux dans un endroit appelé Gethsémané. Il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici, éveillés avec moi. » Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière. « Mon Père, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis et dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu rester éveillé une seule heure avec moi. Restez vigilant et priez pour ne pas céder à la tentation. » L'esprit est bien disposé, mais par nature l'homme est faible. Il s'éloigna une deuxième fois et fit cette prière. « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Jésus aurait eu toutes les raisons ici d'être découragé par les disciples. Alors qu'il vit son moment le plus difficile, ils n'ont même pas la force d'être une heure avec lui. Pourtant, Jésus refuse. Il aurait pu demander à Dieu quelque chose pour être délivré de cette heure. Mais à cause de nous, il a d'abord dit non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus savait qu'il n'y avait pas d'autre choix possible pour notre salut. S'il refusait d'aller à la croix, le salut de l'humanité ne se ferait pas. Le projet de Dieu de se créer une famille dans les cieux ne se réaliserait pas. Il fallait donc que Jésus soit prêt à renoncer à sa volonté pour faire la volonté du Père. Si nous lisons Jean 17, où Jésus dit « je veux pour nous », il y a eu d'abord, auparavant, un « je ne veux pas aussi pour nous, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux ». C'est la première raison pour laquelle Jésus peut dire « je veux » ici. C'est parce qu'il a d'abord dit non à sa propre volonté. Est-ce que nous pouvons faire la même chose? Est-ce que nous pouvons oser dire à Dieu « je veux » On va prendre deux exemples, un négatif et un positif. L'exemple négatif, vous le connaissez, c'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 20. Lorsque la mère des fils de Zébédée s'approche de Jésus, elle n'ose pas lui dire « je veux », mais le ton y est quand même, et d'ailleurs Jésus lui demande « que veux-tu ?»« Ordonne, dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Cette chère maman, elle a des rêves de gloire pour ses deux fistons, Jacques et Jean. Peut-être pensait-elle, comme la majorité des Juifs à l'époque, que le Messie allait installer son règne et qu'il allait gouverner en Israël, et Jacques et Jean pourraient être les premiers ministres, en quelque sorte, de Jésus. Jésus va lui répondre dans Matthieu 20, versets 22 à 23. Matthieu 20, versets 22 à 23. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? Nous le pouvons, dirent-ils. Il leur répondit, vous boirez en effet ma coupe, et vous serez baptisé du baptême dont je vais être baptisé. Mais quand être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux pour qui mon Père l'a préparé. On ne peut pas dicter à Dieu ce que l'on veut. Si on a des rêves de gloire, eh bien, le chemin qui mène à la gloire passe par la souffrance. Jésus le dit clairement. Certes, Jésus va connaître la résurrection, la gloire, mais avant, il passera par la souffrance. Et si vous voulez être assis à ma droite, vous devez être prêt à prendre ce chemin aussi. Même si vous prenez ce chemin, C'est Dieu seul qui décide de votre place future. Il n'y a pas de salaire pour nos œuvres. C'est la grâce qui décide de la place de chacun dans le royaume de Dieu. Voilà pour le premier exemple négatif où quelqu'un a osé dire à Jésus « Je veux ». Mais il y a quelque chose qui ressemble quand même à ce que Jésus a fait auprès de Dieu. Il y a une promesse dans le psaume 37, verset 4, qui nous dit dans quelles conditions nos désirs peuvent être entendus par Dieu et exaucés. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Il faut d'abord que le cœur soit transformé pour que je puisse demander à Dieu quelque chose, exprimer une volonté. Quand j'aurai fait de Dieu celui qui est le tout de ma vie, qui est au-dessus de tout, alors mes désirs seront transformés. Et les désirs que j'exprimerai seront plus égoïstes, comme ceux de la mère des fils de Zébédée. Ils deviennent saints, en accord avec Dieu. Et Dieu est prêt à y répondre. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Si Jésus a pu dire « je veux », c'est parce qu'il était dans cette dynamique-là. Le Père était tout ce qui comptait pour lui, plus que sa vie propre. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. On a un exemple pratique qui ne touche pas seulement Jésus, mais quelqu'un d'autre, d'un homme, qui a exprimé quelque chose et que Dieu a exaucé. C'est Salomon, vous vous souvenez? Quand il était jeune, Dieu lui a dit « demande ce que tu veux ». C'est rare, hein? Très rare. Et Salomon, parce qu'il avait le cœur en accord, en connexion avec celui de Dieu, eh bien, il a pu recevoir ce qu'il a exprimé. On peut lire ça dans 1 Roi 7, versets 4 à 14, on ne va pas le lire, mais vous vous souvenez du contexte. Il était là, successeur de David, désigné, et Dieu lui dit « demande ce que tu veux ». Pour ton règne. Il n'a pas demandé de l'argent, il n'a pas demandé la gloire. Il a demandé quoi ? La sagesse. Je veux la sagesse. Je ne veux pas faire d'erreur. Et Dieu lui a dit, parce que tu ne demandes pas ça et ça et ça, je t'accorde, mais je te donnerai encore plus. Dieu est prêt à répondre au cœur qui est aligné au sien. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Et puis la troisième raison pour laquelle Jésus a pu dire « je veux », eh bien c'est tout simplement parce qu'il est le Fils de Dieu. Il est plus que nous, plus qu'un prêtre, plus qu'un roi, plus qu'un prophète. Il a une telle intimité avec le Père qu'il peut se permettre ce type de langage audacieux. Je pense qu'il y a là, même si ce n'est pas écrit, une des preuves de la divinité de Jésus. Que Jésus peut dire « je veux » à Dieu et que Dieu répond favorablement à ce « je veux ». Le but de l'Évangile, rappelons-nous, c'est de nous convaincre que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant en lui, nous ayons la vie. Face au type de langage qu'emploie Jésus, il n'y a que deux possibilités. Ou bien Jésus est l'être le plus arrogant qui existe, dire à Dieu « je veux », ou bien alors il est si proche de Dieu qu'il peut se permettre cela. Et bien sûr, c'est la deuxième option qui est la bonne. Je veux, qu'est-ce que Jésus veut ici? On va reprendre le texte. Et je vous invite vraiment à retenir ces paroles, parce qu'elles sont le fondement de votre salut. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. Tout à la fin de la prière de Jésus, tout à la fin de sa vie, juste avant sa mort, Jésus formule le désir le plus profond qui est dans son cœur. C'est que ceux pour lesquels il va payer, donner sa vie, soient avec lui pour l'éternité. Comme je l'ai dit, Jésus aurait pu formuler un « je veux » avant la croix. Pierre a voulu défendre Jésus, vous vous rappelez, il a pris une épée. Il lui dit « mais ne crois-tu pas que si je voulais, je pourrais faire appel à mon Père, il me donnerait 12 légions d'anges qui me délivreraient et qui détruiraient mes ennemis. » Mais Jésus a gardé le « je veux », le dernier « je veux » de sa vie, pour une chose, pour nous. Je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. Ce n'est pas la première fois que Jésus formule dans l'Évangile ce désir profond qui est en lui. On va lire Jean 14, versets 1 à 4. Nous sommes toujours dans la dernière semaine de la vie de Jésus, où il dit « Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Jésus l'a déjà dit avant, c'est vraiment sa volonté. Mais là, il le dit au Père, « Je veux que là où je suis, vous y soyez aussi. » Il l'a dit aux disciples avant. Dans Jean 12, 26, il dit, « Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. » Il y a beaucoup de questions qui se posent parmi les chrétiens quant à l'assurance du salut. L'assurance du salut ne repose pas sur notre capacité à être fidèle et à aller jusqu'au bout. Elle repose sur la volonté de Jésus qui veut que tous ceux qu'il a rachetés soient avec lui. Et aucun ne se perdra. C'est écrit, noir sur blanc. Nous pouvons nous réjouir maintenant. Et si parfois nous bronchons, nous chutons, nous sommes dans le doute, rappelons-nous ce « je veux ». Je veux que là où je suis, ceux qui sont à moi soient aussi avec moi. C'est comme si Jésus disait à Dieu, son Père, « Jusqu'à présent, le ciel, c'était toi et moi, avec les anges, dans une communion parfaite. Mais maintenant, je veux que le ciel, ce ne soit plus seulement toi et moi, mais toi, moi et tous ceux que j'ai rachetés, dans cette même communion. » Le ciel serait pour Jésus incomplet si nous n'y étions pas, parce qu'il a donné sa vie pour nous. Et son objectif, c'était de s'associer à nous pour toujours. C'est une prière qui brûle au fond du cœur de Jésus, que ses disciples, ceux qui ont cru en lui, partagent son éternité. L'apôtre, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dit que Jésus, en vue de la joie qui lui était réservée, a supporté la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite de Dieu. Bien sûr, Jésus était déjà dans la joie avant, mais il y avait une joie nouvelle qui était devant lui. Et la joie qui lui était réservée, c'était de partager son royaume avec nous, afin que là où je suis, ceux que tu m'as donné soit aussi avec moi. » Dans le verset 12 de Jean 17, donc un peu avant, il dit « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom, j'ai protégé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, à part le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. » Il était prévu dans l'Écriture que quelqu'un qui allait être proche de Jésus allait le trahir. Donc ce n'est pas étonnant que Judas ait tourné le dos à Jésus. Mais mis à part Judas, il a protégé et gardé tous ceux qui étaient avec lui, pour qu'un jour ils partagent l'éternité. Dans Jean 10, versets 28-29, Jésus dit à propos des brebis, « Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a données est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » On est gardé par une double main, la main de Jésus, la main du Père. Et donc, le but de Jésus, c'est vraiment qu'on ait cette certitude. Je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. Le dernier point, pourquoi est-ce que Jésus veut qu'on soit avec lui? La suite du verset le dit, « Afin qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. » Si je vous demandais pour quelle raison est-ce que vous voulez être au ciel, qu'est-ce que vous diriez? Certains diraient ben, « parce que je veux échapper à l'enfer, parce que je veux être avec mes proches, ceux qui sont croyants, je veux les retrouver, parce que je veux connaître le bonheur suprême. » Tout ça, c'est bien, mais Jésus montre quelque chose de meilleur, encore de plus grand, afin qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée. On sera au ciel, on sera ébloui par la grandeur de Dieu. La gloire, c'est le reflet extérieur de son être. Quand Dieu s'approchait, il remplissait de gloire le temple. Le but de Dieu, c'est qu'on puisse le connaître, le voir, et qu'on soit dans une adoration, un émerveillement continuel par rapport à cette gloire. Je l'ai dit tout à l'heure, on a quelques tableaux dans l'Apocalypse de ce qui se passe déjà dans le ciel. Et toujours on voit les anges qui sont émerveillés, qui adorent, qui jettent leur couronne, on a l'impression que le langage est presque limité pour leur exprimer tout ce qu'ils voient de la personne de Dieu qui est si glorieux. Avant que Jésus ne parle ainsi, la parole nous dit que Dieu interdisait aux hommes de voir sa gloire. Il l'a dit à Moïse, « Tu ne peux pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » La sainteté de Dieu, Rav l'a rappelé dans sa prière, Dieu est trois fois saint, elle est impossible à voir. Et pourquoi est-ce que nous pourrons la voir? Eh bien, Jean nous le dit dans sa première épître, « Bien-aimés, dit-il, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Est-ce que vous pouvez imaginer ce que ça signifie d'être nous-mêmes transformés à l'image de Jésus? Nous porterons à la perfection l'image de Christ. Le but de Dieu, c'est de commencer ce processus dans notre vie, déjà maintenant. Dans 2 Corinthiens 3:18, il est dit « Nous tous, qui le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Déjà Dieu travaille pour modifier notre être et l'approcher le plus près possible, bien sûr, il y a beaucoup de travail, de l'image de Jésus, du caractère de Jésus, de sa douceur, de sa bonté, de sa sainteté aussi, de sa haine du péché. Jésus travaille en nous. Il commence cette œuvre en nous, il la rendra parfaite. Alors, ce matin, j'aimerais vraiment qu'on puisse garder les yeux fixés sur l'objectif de la vie chrétienne. Ce n'est pas simplement qu'on puisse bien vivre ensemble, qu'on puisse faire des choses. Nous sommes engagés dans un processus qui nous amènera à ressembler à Jésus et à partager sa gloire pour l'éternité. J'aimerais terminer en rappelant les 7 sujets de prière qu'on trouve dans cette prière de Jésus. le premier et le dernier se rejoignent. Le premier sujet de prière, c'est que Jésus soit glorifié en nous. C'est la première chose que Jésus demande. C'est vraiment son objectif de reproduire sa vie, son caractère en nous. Le deuxième sujet de prière nous parle du moyen par lequel cette œuvre de Dieu peut se faire. Garde en ton nom ceux que tu m'as donnés. Il met l'accent sur la proximité entre Jésus et nous, l'intimité. Jean nous rappelle dans Jean 15 que la vie chrétienne, c'est demeurer en Christ, rester caché en lui. Refuser de vivre par nous-mêmes, de réagir avec ce que nous sommes naturellement, mais être le plus près possible de Jésus pour le refléter. Le troisième sujet, c'est que sa joie nous habite. Nous avons des raisons d'être joyeux, d'avoir de la joie dans ce monde, même s'il y a beaucoup de tristesse. C'est l'espérance que nous avons en Jésus. C'est l'identité que nous avons en Jésus. Nous ne sommes plus comme le commun des mortels. Nous avons quelque chose de beaucoup plus grand en nous. Une perspective que personne n'a en dehors de Christ. Le quatrième sujet de prière, c'est une protection vis-à-vis du mal. Nous sommes dans un monde hostile. Nous avons un ennemi qui veut obscurcir notre vision de Jésus et nous ramener dans la dépendance des désirs de la chair, continuer à vivre par le péché, par nous-mêmes, veiller et prier pour ne pas tomber en tentation, nous a dit Jésus. On doit être conscient de cela. Le cinquième sujet de prière, c'est que nous soyons sanctifiés par la parole. C'est que nous apprenions à penser comme Dieu pense, dans la parole. À adopter les points de vue de Dieu, les valeurs de Dieu. Et l'effet de ce travail, c'est que nous devenons saints à notre tour, séparés du mal, consacrés à Dieu. Et bien sûr, la parole de Dieu joue un rôle essentiel dans la vie chrétienne. La négliger, c'est finalement se priver de l'outil qui nous rend saints et semblables à Christ. Le sixième sujet de prière, on l'a vu la dernière fois, c'est l'unité de l'Église. Elle est la condition pour que le monde croie, dit Jésus. L'unité dans l'amour et la vérité. Nous devons être des exemples inspirants pour les autres et vraiment travailler à ne pas fabriquer la division, sans quoi l'Église perd sa force. Elle devient un repoussoir au lieu d'être un lieu d'attraction. Et puis le septième sujet, le plus glorieux, le plus réjouissant pour nous, c'est ce qu'on a vu ce matin, que nous soyons avec lui pour que nous puissions voir sa gloire. Rappelons-nous ces sujets, je trouve qu'ils couvrent vraiment toute la palette des choses qui touchent à la vie chrétienne. Et Jésus a prié pour cela, nous pouvons aussi prier les uns les autres pour cela. Amen.